2022, 17 octobre, ça fait un an que le pot est légal, oui, mais 17 octobre, à chaque année aussi, c'est la journée mondiale du don d'organes.
C'est vrai.
Et il y a toujours plein de débats qui entourent le don d'organes. Ça fait longtemps qu'on entend dire au Québec, est-ce qu'on devrait inverser le fardeau? C'est-à-dire les gens qui veulent pas donner leurs organes auraient à signer la carte, tandis que ceux qui veulent donner des organes, ce serait automatique. Mais il y a des subtilités à tout ça. Plus on parle à des gens qui tournent autour de ce milieu-là, nous disent « Ouais, mais anyway, il y a d'autres facteurs lorsqu'il arrive, exemple, un accident et on doit prélever des organes. C'est pas juste la carte qui compte dans ce cas-là. Il faut démêler tout ça. » Effectivement, qu'est-ce qui se passe le jour où il y a un organe qui est disponible? Ça, il n'y a pas grand monde qui est au courant de comment ça fonctionne. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Moi, pendant des années, c'était bien abstrait de faire des entrevues avec des gens là-dessus. Mais l'année passée, en 2018, mon frère meurt à 29 ans, dans un accident de voiture. Boulevard Saguenay, Arvida. Tu reçois le call, tu t'en vas à l'hôpital.
Puis un coup que ton frère est décédé, lui, il ne peut plus prendre de décision ultérieure. Ça tombe dans vos mains.
Il en avait déjà parlé. Donc ouais, ça, mais c'était ouais. La carte est signée, tout ça, t'es réglé. Mais il pose quand même la question dans un petit bureau, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis après ça, il y a un processus qui s'enclenche. Et je peux vous dire après coup que émotivement, sur le coup d'un accident comme ça, puis c'est souvent ce qui se passe dans le cas de don d'organes, il faut que les organes soient encore en vie, une question de mort cérébrale là-dedans, puis tout le kit, c'est vraiment pas évident à vivre. Puis à un moment donné, même si tout le monde était bien d'accord sur les organes, à un moment donné, tout le monde s'est regardé après un jour ou deux ou trois, là, puis là, tu te regardes. Hey, là, on arrête tout ça. Là. Puis on peut arrêter à n'importe quel moment, là, mais c'est que ça prolonge aussi. Puis, tu sais, une fois que c'est fait, je dois t'avouer que la poussière est retombée. Pas mal, tout le monde dit que ça a été une bonne chose. 5 organes prélevés. La majorité des organes qui ont été implantés, on l'a su après, là, ça a été un succès.
Je pense que tout le monde, ceux qui n'ont pas été confrontés à ça, ont le réflexe de penser que la décision est noire ou blanche, est facile à prendre. Par contre, quand tu es impliqué directement dans la prise de décision, le détachement comme tel, c'est plusieurs teintes, c'est pas si clair. Et c'est un peu ce que tu dis de ce que je
comprends. Je le raconte pas pour le fun, c'est juste pour vous faire vivre puis expliquer un petit peu comment ça peut se produire. C'est pas aussi simple que de partager des articles sur Facebook en disant « Hey, on devrait avoir une carte signée seulement quand tu veux pas donner d'organes. » On va aller en parler avec Louis Beaulieu, qui est directeur général de Transplant Québec. Monsieur Beaulieu, bonjour.
Oui, bonjour. Votre témoignage me touche beaucoup. Il est authentique. Vous avez vécu cette situation-là. Je ne sais pas si je parle à Simon, Fred ou Marco.
Oui, c'est Simon.
C'est Simon. Ouais. Alors, d'abord, vous offrez mes condoléances parce que la perte d'un être cher, c'est pas quelque chose qui se règle à court terme. Puis en plus, quand c'est notre frère, puis jeune, c'est un peu contre ce qu'on vit habituellement. Et votre famille qui avait été capable de prendre cette décision-là. Puis vous témoignez très, très bien de ce qu'on essaye d'expliquer souvent, c'est que c'est bien facile théoriquement de penser à cette situation-là, mais quand on la vit, il y a toutes sortes d'émotions. D'abord, faut accepter que notre proche est mort, puis on veut pas ça, on se dit ça se peut pas. Puis après ça, on veut faire la meilleure chose, puis on est tiraillé. Puis le processus de don d'organes, c'est pas rare que ça prend quelques jours, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans la logistique. Donc, quand les volontés sont claires, ça aide à placer ça, puis à prendre une décision. Puis le fait d'en avoir parlé, ben ça revient dans ces moments-là, puis on se dit, OK, qu'est-ce qui serait le mieux? Ben c'est ça qu'il voulait, puis à un moment, ça devient le point de ralliement. Mais malgré ça, dans le temps qui passe, la souffrance est là, puis on veut passer à autre chose. Donc, et vous dites après, ben ça a permis, on se dit que c'est la bonne chose à faire, parce que ça a contribué probablement pour vous et votre famille à donner du sens, un peu de sens à ce décès-là pour lequel c'est très difficile d'en trouver.
Et encore là, un an plus tard, M. Beaulieu, il n'y a pas tout le monde dans la famille qui voit ça de la même façon. Puis c'est bien correct, là. Tu sais, il y a des gens qui veulent avoir un suivi, d'autres que ça ne les intéresse pas pantoute. Puis c'est vraiment une situation qui est très, très, très personnelle.
Oui, et vous, c'est vrai ce que vous dites aussi. Il y a des gens qui veulent un suivi, il y en a qui n'en veulent pas parce que à chaque fois que le suivi revient, ben ça rebrasse les affaires. Puis on ne vit pas le deuil tous de la même manière. Et par ailleurs, c'est des choses qu'on observe. Des fois, il y a des familles de donneurs qui nous disent « Coudonc, les receveurs nous écrivent pas, ils sont donc ben ingrats. » Les receveurs aussi, des fois, pour eux, c'est difficile. Parce qu'il y en a qui se disent « Hey, il y a quelqu'un qui a dû mourir pour que moi, je puisse vivre. » Fait que c'est pas toujours facile de concilier tout ça dans sa tête et dans son cœur, sans compter que le receveur, il y a toutes sortes d'enjeux aussi, il doit prendre des médicaments. Alors, vous faites très bien ressortir à quel point c'est pas un processus linéaire qu'on peut tout prévoir d'avance et il faut qu'il y ait de la souplesse pour accueillir la souffrance des proches à l'intérieur de ça, puis les guider vers ce qui serait la meilleure décision en fonction de ce que la personne a dit et qu'elle a décidé peut-être des années auparavant.
Question pour vous. Dans un sujet d'ordre philanthropique, à chaque année, on s'aperçoit qu'au Québec, on fait un peu bande à part par rapport au restant du Canada. En matière d'argent pour les bonnes causes, on donne moins. Chiffres à l'appui, là, on est moins généreux. Peut-être parce qu'on est plus taxé au Canada, mais est-ce qu'en matière de dons d'organes, c'est la même mauvaise tendance?
On a fait un sondage il y a à peu près un an, puis ce qui ressort, c'est que 92% des Québécois sont favorables aux dons d'organes. Donc, dans l'intention, c'est très clair. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas fait connaître leur volonté, puis il y a des gens qui vont nous dire je veux pas m'occuper de ça tout de suite.
Non, mais dans les faits, là, dites-moi, là, est-ce qu'au Québec, on donne plus nos organes que ceux de la Colombie-Britannique ou moins?
Je vous dirais que c'est équivalent. Il y a des phénomènes qu'on n'observe pas au Québec, qu'on a observé en Colombie-Britannique, par exemple les intoxications ou les décès suite à des prises d'opioïdes ou de fentanyl qui ont eu un impact important sur le nombre des donneurs en Colombie-Britannique. C'est pas quelque chose qu'on observe au Québec. Puis tant mieux, là, je veux dire, on souhaite pas que les gens décèdent quand ils consomment des drogues comme ça. Puis je veux rassurer vos auditeurs, là, quand il y a un organe qui va être donné d'une personne, dans tous les cas, on va faire les examens nécessaires pour s'assurer que les organes sont de bonne qualité. Alors ça, c'est incontournable à chaque fois. Puis je prétends pas là, que les gens qui prennent des opioïdes ont des organes de moins bonne qualité, mais soyez sûr que ça, c'est fait.
Quelle serait la meilleure façon pour augmenter quand même le taux? Parce qu'il y a quand même des gains à faire, là. Je sais qu'il y a une controverse actuellement dans l'actualité sur l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Il y avait une façon de faire aux autres particulières qui était supposément performante qu'on aurait pu reproduire ailleurs. J'ai parlé en introduction aussi d'inverser le fardeau pour la signature de la carte. Selon vous, ce serait quoi les façons de faire pour augmenter chez Transplant Québec le niveau?
Bien, je dirais que il y a un très bel exemple dans votre région qui est le médecin coordonnateur en don d'organes qui est là, docteur Jean-Sébastien Bilodeau, qui est un intensiviste au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a des chiffres parmi les meilleurs qu'on a au Québec, puis des chiffres qui sont comparables à ce qu'on observe dans des juridictions les plus performantes au monde. Son rôle, c'est de s'assurer qu'avec tous les hôpitaux, donc Alma, Dolbeau, etc., on soit en mesure d'identifier les donneurs. Le donneur est rare en soi. C'est 1,4% des gens qui décèdent à l'hôpital. Ça, c'est une statistique internationale. Ça veut dire que pour tout le Québec, c'est 450 personnes si on avait tous les donneurs dans une année. C'est rare, un donneur d'organes. Alors, Dr Bilodeau, il s'assure de travailler à défaire des nœuds au plan médical dans l'hôpital, à former les gens, à regarder les données de l'hôpital pour voir comment la performance est établie. Il le fait, bien sûr, avec toute l'équipe. Et c'est un exemple à déployer ailleurs au Québec. Les familles, on en prend bien soin dans chacun des hôpitaux au Québec. La ministre McCann a annoncé hier qu'elle élargissait les médecins coordonnateurs dans toutes les régions du Québec. Alors, vous, les gens qui vous écoutent sont peut-être sur la Côte-Nord aussi. Il y aura un médecin coordonnateur comme celui que vous avez. Et ça, on le sait, la formation des professionnels et l'organisation des services, c'est ce qui est le plus important. Le consentement aussi. Alors, est-ce qu'un jour on arrivera à un modèle de consentement différent au Québec? Je peux pas le prédire, mais il ne faudrait pas modifier juste ça, parce qu'on l'a vu ailleurs dans le monde, quand on modifie juste la question du consentement puis qu'on travaille pas sur la formation et l'organisation, ben ça change rien. Puis même dans certains cas, comme au Brésil, ça a fait l'effet contraire, ça a diminué le don. Donc, vous l'avez très bien dit, M. Tremblay, c'est complexe. On peut pas jouer juste sur une chose. Il faut jouer sur plusieurs facteurs. Et ce que vos auditeurs peuvent faire aujourd'hui ou demain, c'est de faire connaître leur volonté par écrit, si possible dans un des registres qui existent au Québec, à la RAMQ ou chez les notaires, et de parler du bien qu'ils aimeraient faire à leur décès par le don d'organes. Ça, on peut faire ça tout de suite aujourd'hui.
Je ne veux pas entrer dans le détail, la controverse, mais hier, j'ai eu une communication avec une fille de la région qui est en attente d'un don de rein dans son cas. Puis ça fait des années, là. C'est vraiment, vraiment très, très long. Puis elle me partageait justement l'article disant, écoutez, eux autres, ils ont des meilleures statistiques, des lits attitrés avec des médecins qui font pratiquement juste ça, là, du don d'organes. Puis nous autres, pendant ce temps-là, on ne fait pas pareil. Puis eux autres se font fermer. Puis il y a de l'incompréhension. On se dit, pourquoi on copie pas le modèle? Dans le fond, c'est qu'il y a une question salariale là-dedans aussi. Pour ça, je ne veux pas entrer dans le détail, mais...
Ce qui est un peu malheureux, c'est qu'il y a une série d'informations qui n'ont pas été communiquées dans le cadre de ce dossier-là. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs hôpitaux au Québec qui sont aussi bons, sinon meilleurs. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vos résultats sont meilleurs que ceux qu'on observait, par exemple, à Sacré-Cœur. Et il y a des centres qui s'occupent d'autant, sinon plus de donneurs et qu'ils font très bien. Donc, les gens ne devraient pas s'inquiéter. Je comprends qu'attendre, c'est terrible, c'est très long, surtout quand on est en dialyse. Mais toujours est-il qu'il y a tout de même, l'année dernière, 10 personnes qui ont été transplantées dans votre région pour des reins. Vous me direz que c'est pas beaucoup, mais la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est à peu près 2 à 3 % de la population du Québec. Et il y a eu 4 % des personnes qui ont été transplantées au Québec dans votre région. Il y a toujours aussi, des fois, l'option du don vivant qui peut être examiné pour les reins. Je sais que c'est pas évident, ça non plus, mais au Québec, il se fait au moins une cinquantaine de dons vivants par année. Et des fois, les gens proches de nous, ils ont juste pas pensé. Et je comprends que c'est une question difficile à aborder. Me donnerais-tu un rein? On n'est pas à l'aise de faire ça. Mais j'en parle, là. Ben, il y a peut-être des gens qui seraient prêts à faire ça puis qui n'auront juste pas pensé.
Effectivement. Quand même une question qui me brûle les lèvres. On est une région quand même éloignée, on va se le dire. Est-ce que la distance, des fois, peut nous désavantager en termes de transport des organes disponibles ailleurs au Québec?
Non, parce que les transports se font soit par avion ou on a des policiers bénévoles qui participent. Il y en a qui sont attachés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, qui transportent les organes bénévolement pour assurer toute la qualité du transport. Non, ça, dans votre cas, non. C'est sûr que pour être transplanté, il faut aller à Québec ou à Montréal, parce que c'est là que ça se fait. Puis une des raisons pourquoi ça se fait comme ça, c'est que c'est mieux qu'il y ait une concentration de volume. On n'en fait pas, on fait à peu près 70 transplantations de poumons par année. Ben, vaut mieux que les équipes qui font ça en fassent souvent.
Ah, donc le prélèvement se fait partout, mais quand on décide de faire la greffe, exemple, même si c'est un donneur et un receveur qui viennent de Chicoutimi, mettons, ça se fera pas à Chicoutimi.
Ça se fera pas à Chicoutimi, okay. Parce qu'il n'y a pas de greffe qui se fait à Chicoutimi. Les greffes se font à Québec, Sherbrooke, pour les reins. Et il y a le cœur aussi à Québec. Sinon, tous les autres organes sont transplantés à Montréal.
OK. Fait que même si on avait deux personnes dans la même rue ou deux personnes dans la même famille qui voudraient donner un organe à l'autre, même s'ils sont basés sur la rue Dubuc à Chicoutimi, il va falloir les envoyer pareil au mieux à Québec, c'est ça?
Exactement. Okay. C'est comme ça que ça se passe. Alors oui, c'est demandant. C'est demandant. Puis il y a un programme qui permet de rembourser une partie des dépenses pour les donneurs vivants, justement pour éviter que le fardeau soit trop élevé. Donc, il y a des montants maximum, mais ça peut représenter jusqu'à pas loin de 6 000 $ pour aider le donneur, pas pour payer le rein, mais pour compenser les dépenses qu'il encourt pour cette démarche-là.
Mais c'est drôle, hein? Vous parlez de ça, puis j'avais une question en tête pour peut-être combler une certaine lacune, un nombre d'organes disponibles. Évidemment, les questions de rémunérer pour des organes, là, vous avez dit que ça existe, mais c'est vraiment pour les dépenses et non pas pour l'organe même. Mais y aurait-tu moyen peut-être d'installer un service peut-être de redevance monétaire de manière post-mortem? Exemple, pour la famille du gars qui donne un organe, tu sais, pour que la famille soit moins réticente, c'est-à-dire, je vous parle pas d'une somme astronomique, mais mettons que quelqu'un décide de donner ses organes de manière post-mortem, est-ce que la famille pourrait pas recevoir un certain montant qui serait réutilisé soit pour les funérailles ou je sais pas trop quoi? C'est-tu quelque chose qui a déjà été discuté?
Ben, il y a certains pays qui font ça dans certaines circonstances. Par exemple, ce qu'on fait au Québec, si quelqu'un doit être transféré d'un hôpital vers un autre hôpital pour le don d'organes, on va payer le retour du corps par la maison funéraire là où la personne va être enterrée ou incinérée ou exposée. Là, ça on fait ça actuellement au Québec. L'équilibre là-dedans, c'est toujours que la population ait la conviction qu'on n'est pas dans un mode de transaction d'argent. À l'intérieur de ça, qu'on reste dans la modalité du don. Donc, on donne, parce qu'à partir du moment, pour beaucoup de personnes, à partir du moment où on fait une transaction financière, puis je comprends que ce que vous me dites, c'est pas tout à fait ça, là, on parle pas tout à fait de la même chose, là, mais qu'on fait une transaction financière, ben, puis je porte pas de jugement de valeur, mais les gens vont dire, ben, pourquoi je donnerais si je peux vendre ou je peux avoir de l'argent? Je sais que c'est pas ça exactement dont vous me parliez, mais le principe de base, c'est celui-là.
Dernière chose, ça vient d'un auditeur, mais je pense que la question est pertinente. Quand on signe notre carte ou encore on met par écrit nos volontés puis on en parle à notre famille, est-ce qu'il est possible de dire, exemple, je suis prêt à donner mes organes, par contre, je veux pas que ce soit transplanté à quelqu'un qui est toxicomane, qui courait après, entre guillemets?
Non. Ça, c'est un principe aussi qu'on applique, qu'on veut pas que ça commence à être dirigé, parce que là, vous prenez cet exemple-là, puis on pourrait en imaginer bien d'autres.
Les poumons pour les fumeurs.
Oui, mais en même temps, des fois, ce sont des poumons de fumeurs qui fument pas beaucoup, qui peuvent être transplantés parce qu'on est dans une situation de vie ou de mort. Donc, à partir du moment où on commence à rentrer dans ces détails-là, c'est très difficile de s'arrêter. Donc, actuellement, ça ne fonctionne pas au mérite. Ça fonctionne à l'urgence et aussi, surtout, à la compatibilité et au temps d'attente. Autrement dit, quelqu'un qui attend plus longtemps ça va être pris en compte et il faut s'assurer que le groupe sanguin est adéquat, puis toute une série de choses aussi pour que l'organe qu'on va transplanter ne soit pas rejeté, parce que c'est, on veut surtout pas ça. Donc, il y a des critères, il y a des principes de base là, qui sont appliqués, et un des principes, c'est de ne pas diriger, c'est-à-dire empêcher une personne. Dans certains cas, on accepte l'idée que ça puisse être une personne en particulier parce qu'il y a une relation très spécifique, mais c'est pas quelque chose qu'on encourage d'aucune façon.
Monsieur Beaulieu, la journée d'aujourd'hui, la journée mondiale du don d'organes, nous a permis d'en parler. Merci d'avoir pris le temps.
Merci à vos auditeurs de faire connaître leur volonté. Vous l'avez dit, c'est important.
Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Donc, Louis Beaulieu, qui est directeur général de Transplant Québec.